Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Vous écoutez l'Ovalie, podcast qui retrace l'actualité rugbystique de la semaine. Comme pour chaque épisode, on commence avec les matchs de top 14 qui se sont joués ce week-end. Vendredi soir, pour l'ouverture de cette 19e journée, jouée en avance pour compenser l'interruption de la Coupe d'Europe, les Rochelais n'ont fait qu'une seule bouchée de l'aviron bayonnais. C'est par le travail et la domination de leurs avants que les Rochelais ont fait basculer la rencontre pour finalement l'emporter 40-3 chez eux. On peut noter dans le match le doublé du talonneur français Pierre Bourgarit qui récompense à deux reprises le travail de ses coéquipiers sur ballon porté pour inscrire son 7e et 8e essai de la saison et prendre provisoirement la place de co-meilleur marqueur du championnat. Omniprésent et dans l'avancée sur chacun de ses ballons, le numéro 8 Grégory Aldrit suit l'exemple de son coéquipier en équipe de France pour lui aussi s'offrir un doublé vendredi soir. Cette victoire avec bonus offensif pour La Rochelle fait mal aux Bayonnais qui restent à la 12e place du championnat avec deux mois entiers sans victoire. Samedi après-midi, le Racing Métro chute pour la deuxième fois consécutive face à un concurrent direct au top 6 en s'inclinant 32-33 face à l'Union Bordeaux-Bègles. Après une entame de match très fermée, c'est les Bordelais qui inscrivent le premier essai du match sur une interception de leur troisième ligne, Higgin Bottom. Privés ensuite de ballon, les Bordelais vont encaisser deux essais coup sur coup, un premier de Rouhanimov, puis un second de Loray, suite à une mésentente du troisième rideau bordelais. Mais les deux équipes vont retourner au vestiaire dos à dos après un essai de Woki dans le couloir des 5 mètres qui vient conclure une belle phase offensive bordelaise orchestrée par l'ouvreur Mathieu Jalibert. Au retour des vestiaires, Jalibert s'illustre une nouvelle fois en profitant d'une course rentrante de son ailier Ben Lam pour venir au soutien, éliminer son vis-à-vis Finn Russell et filer dans l'embut 30-23. Après 3 pénalités réussies, les Franciliens revenus à 32-33 ont l'occasion de repasser devant dans ce match, sans compter sur le Bordelais Cameron Woki qui récupère deux ballons consécutifs sur des lancers en touche adverse. En plus de cette défaite, le Racing Métro subit un nouveau coup dur, la blessure au genou du trois-quarts centré international français, Virimi Vakatawa.
J'ai pas envie de me perturber l'esprit parce que si je marque pas, après ça va me prendre la tête, donc je me dis que de continuer comme ça et puis on verra. C'est surtout pour le collectif, ça fait du bien d'avoir des joueurs qui sont capables de concrétiser de belles actions.
En déplacement à Agen, le Stade Toulousain s'impose facilement sur le score de 59-0 et reprend le fauteuil de leader du championnat. Dans cette rencontre à sens unique, les Toulousains ont dominé par la vitesse et la puissance leurs adversaires en inscrivant 9 essais, dont 3 signés Mathis Lebel. Avec ce triplé, l'ailier toulousain reprend avec autorité les commandes du classement des meilleurs marqueurs du championnat, malgré le doublé du talonneur rochelais Pierre Bourgarit. Privé de ballon et dominé dans tous les compartiments du jeu, les Agenais encaissent tout type d'essais et s'inclinent sans inscrire un seul point.
Depuis quelques temps, on rentre quelques blessés, ça fait du bien. Devant, on commence à revoir aussi de la densité. Et devant, avoir nos ballons, c'est important. Ce soir, on a eu nos ballons, on a pu mettre notre jeu en place.
Après cette large victoire du Stade Toulousain, les Clermontois, eux aussi, n'ont pas fait dans la demi-mesure en s'imposant largement 52-19 face au Castres Olympique. Le premier essai du match va être inscrit au bout de 13 minutes de jeu par l'intermédiaire de l'ailier Aliveretti Raka qui résiste à deux défenseurs après une passe au pied de Morgan Parra. Les Clermontois profitent ensuite de leur supériorité numérique après un carton jaune pour plaquage dangereux, mais aussi des approximations défensives pour inscrire un deuxième essai signé par le jeune Tani Vili. Dans une fin de première période à leur avantage, les Castrais vont revenir dans le match avec un essai de Fernandez à la 33e minute et un autre de Guillemin à la 40e. Mais 10 minutes plus tard, une interception de Raka, qui finira sous les poteaux, sera le tournant du match et marquera le début d'une seconde mi-temps à sens unique. Les Clermontois vont ensuite creuser l'écart, notamment par la puissance de leurs avants, pour retrouver la victoire chez eux, au Stade Michelin. La crise se poursuit du côté de Montpellier, qui compte désormais 6 défaites consécutives avec ce nouvel échec ce week-end face aux Lyonnais. Contrairement aux Montpelliérains qui ne parviennent pas à concrétiser leurs actions en début de rencontre, les Lyonnais vont se montrer efficaces, comme le témoigne l'essai de Xavier Mignot à la 35e minute, à la suite d'une bonne phase offensive. Au retour des vestiaires, la maladresse et l'indiscipline sont toujours présents dans le camp montpelliérain, permettant aux Lyonnais de creuser l'écart avec un essai de Noah Nakaitasi à la conclusion d'un contre-lyonnais de grande envergure. Les Lyonnais vont ensuite inscrire un troisième essai à la 68e minute de jeu, mais vont être privés du bonus offensif suite à un bon travail des avants du MHR sur un ballon porté qui se finira dans le but lyonnais.
Aujourd'hui, c'est un petit match de play-off entre Pau et nous. C'est une équipe qui dort un petit peu et j'espère qu'ils ne vont pas se réveiller aujourd'hui.
Dimanche après-midi, Brive est parvenu à s'imposer 27-32 au hameau de la section paloise. Une victoire qui permet aux Brivistes de monter à la 9e place du classement et donc de s'éloigner de la zone rouge. C'est seulement après 25 minutes de jeu que Brive concrétise sa domination de début de rencontre grâce à un enchaînement de passes après contact qui aboutit à un essai du Fidjien Tamika Mika. Mais la fin de la première période va tourner en faveur des Palois qui bénéficient des problèmes en conquête et des fautes de leurs adversaires pour inscrire deux essais et mener 17-16 à la mi-temps. Après deux cartons jaunes et un nouvel essai de chaque côté dans la seconde période, Brive a tenu jusqu'au bout, notamment grâce à une défense héroïque en fin de match et une prestation solide au pied de son ouvreur Enzo Hervé, qui signe un 8-8 face au Perche. Pour clôturer cette 19e journée de championnat, le RC Toulon est sorti vainqueur à domicile dans son match l'opposant au Stade Français. En première période, la vitesse et l'efficacité toulonnaise prennent le dessus sur l'indiscipline et le manque de réalisme des joueurs de la capitale. Cela permet aux Toulonnais de mener 18-6 après 40 minutes de jeu grâce à des essais signés Louis Carbonel et Toé Ava. Le cauchemar parisien se poursuit ensuite avec un plaquage à l'épaule de Nicolas Sanchez sur le visage de Serin qui est signe de carton rouge juste avant la mi-temps. Souffrant de leur infériorité numérique, les Parisiens vont ensuite encaisser deux essais, un de Tolofua sur ballon porté et un deuxième de l'ailier Brice Him. Malgré un essai du Stade Français en fin de rencontre, ce sont les Varois qui s'imposent avec le bonus offensif, leur permettant de monter sur la troisième place du podium au détriment du Racing Métro, défait ce week-end. On passe maintenant au tournoi destination et notamment à l'équipe de France qui va devoir faire sans certains de ses cadres. En plus de l'ouvreur numéro 1, Romain Ntamack, c'est Thomas Ramos qui a déclaré forfait pour son match d'ouverture face à l'Italie, prévu le 6 février prochain. Fabien Galthié ne pourra donc pas compter sur l'arrière toulousain en raison d'une blessure dont la nature n'a pas été communiquée et intègre l'ailier montpelliérain Vincent Rathez pour compenser cette absence. Sorti sur blessure ce week-end, le centre Virimi Vakatawa souffre d'une entorse au genou et sera donc absent pendant 6 semaines. Pour pallier au mieux cet énorme coup dur pour le 15 de France, Fabien Galthié fait appel au centre lyonnais Pierre-Louis Barassi. Un autre scanner au genou effectué ce lundi oblige Grégory Aldrit à quelques jours de repos qui l'empêche de rejoindre le 15 de France pour préparer le tournoi des 6 nations. Mais cela n'empêche pas le numéro 8 Rochelet de participer normalement au tournoi et même d'être aligné dans l'effectif pour le prochain match des Bleus contre l'Italie. L'information vient juste de sortir quand j'enregistre cet épisode. Winnie Antonio, Jean-Baptiste Gros et Swan Rebadj déclarent forfait également pour le tournoi des 6 nations. Ils seront donc remplacés par les piliers Aldeguerri et Paiva, ainsi que par le deuxième ligne Rochelet, Thomas Lavaux. On continue maintenant avec la page business. Ce jeudi 21 janvier, la LNR, Ligue Nationale de Rugby, a lancé un nouvel appel d'offres pour les droits TV de Top 14 pour la période de 2023 à 2027. Actuellement et jusqu'en 2023, c'est Canal+ qui possède l'ensemble des droits du Top 14 en échange d'une indemnité de 98 millions d'euros. Cet appel d'offres est composé de 3 lots qui sont adressés à l'ensemble des acteurs télévisuels et digitaux. Les deux premiers lots consistent à la diffusion de matchs en direct en intégralité ainsi que de magazines, alors que le troisième porte sur la couverture du championnat sous forme d'extraits et de résumés. Au cours d'un entretien sur Rugbyrama, le président de la Ligue a annoncé qu'il souhaitait faire jouer la concurrence en acceptant notamment des offres potentielles de la part des GAFAM dans le but de donner plus de visibilité, essentielle pour le maintien et l'avenir des clubs. Pour finir cet épisode, intéressons-nous à la bonne action de la semaine. Comme tous les autres clubs de Top 14 et de Pro D2, le club de Brive est contraint aux nouvelles difficultés engendrées par la crise sanitaire et se trouve donc privé de ses supporters en raison du huis clos imposé. Face à cette situation, plusieurs associations de supporters ont décidé de fonder le mur des supporters, symbolisant la solidarité et le soutien vis-à-vis de leur club de cœur. Ils appellent tous les supporters brivistes à acheter à la boutique du club une ardoise numérotée et personnalisée avec le nom de chacun, qui sera ensuite apposée sur un mur dans l'enceinte du stade. Et merci à tous et à toutes d'avoir écouté l'Ovalie. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.